Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Eléa. C'est après une licence d'histoire qu'elle décidera de trouver le métier de ses rêves, qui concilie relationnel et soins, deux valeurs très chères à son cœur. La voici embarquée dans un cursus pour devenir préparatrice en pharmacie. Bonne écoute.
Bonjour Eléa.
Bonjour Marielle.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Mais ça va très bien, je te remercie, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui.
Moi aussi.
Donc on va présenter un nouveau portrait d'un nouveau métier qui n'a, je crois, pas encore été abordé, ou alors un peu survolé peut-être dans certains épisodes, notamment avec Margot qui était pharmacie industrielle. On a peut-être parlé de ton métier à ce moment-là, mais pas beaucoup plus. Pour démarrer, Eléa, je te laisse te présenter.
Oui, et eh ben voilà, moi je m'appelle Eléa, j'ai 23 ans. Je suis apprentie préparatrice en pharmacie depuis août, 2022, donc ça fait pas très longtemps. J'aime bien la mode, la beauté, les cosmétiques, tout ça, et la musique aussi. Puis bah voilà, je pense que ça suffit.
C'est très bien, c'est super. Comment est-ce que tu as entendu parler de ce métier? Est-ce que quelqu'un dans ta famille l'exerçait déjà ou...
Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas... Enfin, mes grands-parents, du côté de mon père, étaient infirmiers dans un service de psychiatrie.
Ok.
Donc, voilà, ça n'a pas trop à voir avec le métier de préparateur. Mais sinon, il n'y a que eux qui sont dans la santé. Et j'en ai entendu parler... En fait, je le connaissais déjà en tant que patiente, quoi. Enfin, j'ai pas... Il n'y a pas quelqu'un qui m'a guidée sur le chemin de ce métier.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours d'études? Je ne sais pas, si on démarre, par exemple, souvent seconde, première. Voilà, quand on arrive au lycée, ça se dessine tranquillement. Comment ça s'est passé pour toi?
Moi, j'ai fait une première littéraire, une terminale aussi. Donc, voilà. Et à la base, je voulais être professeure d'histoire géo, donc vraiment rien à voir du tout. Et depuis longtemps, depuis que je suis toute petite, je me souviens en CE1, je me suis dit, je vais être institutrice, quoi.
D'accord.
Vraiment, j'avais envie de faire ça. Puis après, en grandissant, quand on va au collège et qu'on a plus de matières, du coup, on s'oriente sur ce qu'on préfère. Moi, c'était l'histoire, j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai fait ça, puis après, j'ai eu mon bac. En 2018, ça commence à faire un petit bout de temps. Et puis après, j'ai fait une licence d'histoire géo.
Ok.
Que j'ai pas eu. J'ai fait les 3 ans, mais j'ai pas réussi à la fin parce que vraiment, c'est tombé en fait, tu sais, pendant le Covid, il y a eu cette période-là qui était pas évidente. Et puis, je me sentais pas à ma place. En arrivant à la fac, je me suis dit, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai quand même fait parce que je ne savais pas vers quoi me tourner, en fait. Donc, je suis restée là-dedans. Et en fait, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je ne veux plus être prof. Hein. J'arrivais plus à retrouver ce qui m'avait donné envie, en fait, quand j'étais plus jeune, de vouloir faire ce métier-là. Après, c'est un très beau métier, hein, mais aujourd'hui, c'est vrai que les conditions d'exercice de ce métier sont très difficiles. Je trouve que ça s'est quand même beaucoup rigidifié avec le temps. Et ça donne plus trop envie quand on est jeune de faire un métier comme ça.
Oui, il y a la différence entre le métier dont on rêve, la façon dont on voudrait l'exercer, et puis le parcours d'études pour arriver à ça.
Ouais. Et puis en grandissant aussi, on change forcément. On apprend, on grandit et on se cherche aussi un peu. Et je pense que... qu'au collège lycée, on est trop jeune pour savoir vraiment ce qu'on a envie de faire, quoi. Moi, je viens de trouver 5 ans après, donc franchement, faut pas avoir peur d'errer un petit peu.
Ouais, complètement. Ouais, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les portraits que je présente, mais je suis complètement d'accord avec toi. Comment veux-tu savoir ce que va devenir ta vie, de quoi ta vie va être faite quand t'as 15, 16, 17 ans, même pour les bacs, pour les filières professionnelles aussi, c'est encore plus tôt. C'est quand même soit un grand coup de chance, soit il y a des gens pour qui ça se passe très bien et tant mieux, mais bon, pour la plupart des personnes, c'est quand même difficile de se projeter si loin dans l'avenir. Donc toi, t'as fini ces 3 années à la fac d'histoire, et du coup, t'as fait un peu le bilan et tu t'es dit, maintenant, qu'est-ce que
c'est
je fais?
C'est ça, tout à fait. C'est aussi parce que j'ai travaillé à côté les étés et tout, j'ai fait de la banque, j'ai fait du commerce, j'ai fait beaucoup de choses.
Okay.
Et être au contact des gens, je me suis dit, mais ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Enfin, j'étais une grande timide, alors je pensais pas que j'étais capable de le faire, mais en fait, si. Et en fait, j'ai tellement aimé, je me suis dit, ah ouais, mais en étant professeur, on n'a pas ce contact-là. Enfin, il y a les enfants, mais c'est pas la même chose. Et on ressent pas... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti... comment dire, cette aide en fait qu'on peut apporter, parce que quand on est professeur, on transmet, mais on n'aide pas vraiment à résoudre un problème qu'une personne peut avoir à un moment donné, qu'on peut résoudre avec la profession qu'on exerce. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dedans, dans le relationnel.
Dans le relationnel et même dans le soin, un peu plus que le relationnel, quoi.
Tout à fait, t'as tout compris en fait. Okay. Et donc, j'ai dressé une liste de tous les métiers potentiels que j'aurais envie de faire.
Ouais, ah bah alors moi je veux bien la savoir, tiens. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette liste ?
Là-dessus, il y avait. Alors j'avais mis esthéticienne.
Ouais.
Alors je te dis dans le désordre, hein, c'était pas du tout classé. Enfin, il y a les cosmétiques, et puis il y a le soin, et puis bon voilà. Il y avait infirmière dedans. Il y avait puéricultrice, même si c'est un dérivé du métier d'infirmière, enfin une évolution, mais j'avais mis quand même. Il y avait ergothérapeute, psychomotricienne, psychologue. Oui, j'avais mis plein de trucs, mais ouais, que en rapport, en fait, avec la santé. Ben, y avait, du coup, préparatrice en pharmacie qui était dedans. Qu'est-ce que j'oublie ? Non, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, orthophoniste, j'avais oublié celui-là.
Okay.
Donc, ça faisait pas mal. Et puis après, j'ai cherché sur YouTube, en fait, des témoignages de personnes qui exerçaient ce métier. J'ai écouté des podcasts. Bah, le tien aussi, du coup, ça en a fait partie parce que je me souviens, j'ai écouté les premiers épisodes, c'était en 2020.
Exactement,
je crois.
Absolument.
Ouais, c'est ça. Avec, c'était une infirmière, je crois, qui travaillait dans l'humanitaire, il me semble. Un des tout
Sarah,
premiers.
Ouais.
Oui, c'est ça, Sarah. Ouais. Et ben, je me suis dit, c'est génial.
Non, ouais.
Ouais, ouais, c'était un épisode super. Enfin, ils sont tous super, hein, parce que du coup, je les ai quasiment tous écoutés.
Oh,
et non, ouais.
Ah bah, je suis contente si ça a pu du coup t'aider alors,
ouais,
peut-être à connaître le métier de l'intérieur, en tout cas, plus que les fiches de poste ou les descriptifs d'études qu'on peut trouver, je ne sais pas, dans des forums des métiers ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est plus du concret, quoi.
Ah, c'est clair. Non, c'est génial d'entendre des vrais professionnels, en fait, parler de leur métier. Mmh. Bah, ouais, c'est concret, du coup, on a le ressenti aussi des gens, parce que quand on lit les fiches de l'ONICEP, parce que c'est beaucoup celui qui regardait de site, bah, ça donne pas tellement envie, quoi.
Ouais.
C'est
on a un peu les contours du ouais, poste, etc. Mais...
C'est ça, mais c'est pas vraiment la réalité, en fait, des choses. Donc,
on connaît un peu les missions de certaines professions, mais c'est, voilà, pour, c'est vrai, pour connaître le détail, encore faut-il pouvoir trouver des gens qui puissent... voilà. Bah, écoute, je suis ravie de ce que tu me dis, parce que moi, c'était un des objectifs de ce podcast. Alors, si ça a pu t'aider, toi, puis d'autres personnes, je suis ravie.
Oui, bah, je pense que je suis pas la seule, et puis je pense qu'il y a aussi des jeunes qui doivent l'écouter, donc ça peut être bien, si ça peut aussi les aider à trouver un chemin de
vie. Sûr.
C'est chouette. Donc,
voilà. Alors du coup, toi, une fois que toutes ces professions étaient mises sur papier, qu'est-ce qui t'a motivée à aller vers une carrière de préparatrice en pharmacie ?
Bah, en fait, j'ai regardé ce que je pouvais faire dans mes capacités, et puis aussi au vu de mon âge, à ce moment-là, je devais avoir 21 ans ou 22 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, la durée d'études compte.
Bien sûr.
Parce que derrière, on a une vie et tout. Et je me suis dit, si je suis diplômée à 30 ans, ça va être un peu compliqué. Mmh. Donc, ça a joué, la durée des études, les capacités. Je me suis dit, bon, t'as fait le calcul, c'est pas ton truc. Enfin, bon, voilà. Les débouchés, tout ça aussi, ça a compté beaucoup. Enfin, l'embauche et tout ça.
Bien sûr.
Pour trouver un métier, enfin, un poste après, quoi. C'est...
Ah bah, clairement, dans des périodes comme celles qu'on vit actuellement, c'est franchement pas un détail.
C'est super important. Donc, tout ça a joué. Et puis, en fait, un jour, j'allais dans une pharmacie. C'est tout bête, hein, juste pour acheter des produits de beauté. Vraiment, c'est... Voilà. Et en fait, là-bas, ils me connaissent assez bien parce que je vais tout le temps là-bas acheter mes trucs. Et un jour, en fait, je me suis dit, bah, je vais poser la question tout simplement à un membre de l'équipe. En fait, c'est ça qui a fait basculer. C'est que je lui ai dit, bah, voilà, préparatrice, moi, c'est un métier qui m'intéresse. Est-ce que vous pensez... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je peux l'exercer ? Comment ça se passe ? Et donc, cette dame m'a dit, mais oui, mais c'est une super idée. Donc, elle m'a un peu expliqué les tenants et les aboutissants du métier. Elle m'a dit, bien sûr que vous pouvez faire ça et tout ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je me renseigne, je vais essayer.
C'est génial que tu aies réussi à avoir cette conversation, parce que tu disais que tu étais timide, mais franchement, bravo quoi, de réussir à demander ça, c'est chouette.
Bah, en fait, à un moment donné, je me suis dit, allez, je me lance, je vais demander. Puis en fait, je trouve que les gens, quand on leur pose des questions comme ça, ils sont un peu surpris, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui vient et qui dit, parlez-moi de votre métier et tout.
Ah, c'est sûr.
Ouais, et puis ils sont bienveillants surtout. Enfin, et puis alors, on se connaissait un peu, donc du coup, c'était plus facile
de voir
quelqu'un. Enfin, que j'avais jamais vu. Ça, c'était en janvier 2022, cette année. Et après, je me suis dit, bah, comment ça se passe concrètement, les études, comment on fait ? Donc, bah, j'ai tapé sur Internet, donc, simplement. Et donc là, j'ai appris que c'était par voie d'apprentissage. Et donc ça, c'est vraiment chouette, parce que je ne voulais pas vraiment retourner à quelque chose de très théorique, comme la fac, par exemple, ou je ne sais pas, un BTS, ou voilà. Mm-hmm. Et en fait, l'apprentissage, c'est chouette parce que bah, du coup, c'est l'alternance. Mmh. Donc, on va à l'école et puis après, il y a l'entreprise et puis on est rémunéré. Et enfin, c'est valorisant en fait comme façon de faire. Et je trouve qu'on apprend toujours mieux vraiment comme ça sur le tas en étant au cœur de l'action que dans les livres ou avec un professeur aussi bon soit-il. Mais du coup... c'est vraiment quelque chose de chouette de faire un apprentissage.
Oui, puis toi, tu avais déjà cette expérience dans le milieu du travail, des études théoriques qui, du coup, t'avaient peut-être un peu pesé aussi. Donc, c'était une bonne solution pour continuer, quoi.
C'est ça. Et en fait, c'est ça qui me manquait quand j'étais au lycée, quand j'avais 18 ans. Mmh. Et en fait, je trouve qu'on... Comment dire, que les profs, ils mettent des cases en fait aux élèves. Par exemple, un élève qui a une très mauvaise moyenne, ils vont lui dire « Bon, bah toi, tu peux pas faire d'études, faire de grandes études, d'aller à la fac et de faire une licence, un master, un doctorat. » Et puis, bah moi, comme j'avais des bonnes notes, ils m'ont dit « Bah toi, Elia, tu peux faire une prépa, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. » Et en fait, on n'a pas parlé des autres voies pour accéder à un métier, c'est-à-dire une voie d'apprentissage ou comme ça. Ben, on n'en parle pas. Et en fait, je trouve ça dommage. Et du coup, c'est aussi peut-être pour ça que ce métier n'est pas très bien connu, parce que ben, les études sont elles-mêmes pas très connues ou même reconnues.
Alors du coup, voilà, tu vois cette formation en apprentissage. Alors du coup, comment ça se passe, l'inscription derrière? on passe un peu sur le côté pratique des choses, mais ça peut aider des personnes qui écoutent.
Tout à fait. Alors du coup, dans ma région, parce que j'habite à Amiens, donc dans les Hauts-de-France, il n'y a pas beaucoup de centres de formation et donc il y en a un à Amiens, qui est une petite école, vraiment on n'est pas beaucoup d'élèves et c'est vraiment un cadre vraiment super. Et d'ailleurs je les remercie s'ils écoutent l'équipe pédagogique parce que vraiment ils sont super. Et du coup j'étais sur leur site et puis j'ai lu un petit peu le descriptif et donc ils disaient qu'il faut trouver un employeur, avoir le bac, voilà. Il faut avoir le bac, avoir un employeur, et ensuite, on peut s'inscrire.
Ah oui, donc on prend le problème dans l'autre sens. On trouve d'abord un employeur et ensuite, on s'inscrit.
Voilà, ce n'est pas l'école, en fait, qui trouve un employeur. C'est vraiment à nous d'aller trouver vraiment un pharmacien, une officine. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça et le bac, on peut en fait s'inscrire à l'école.
D'accord.
Et donc, il ne faut pas s'y prendre trop tard, parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Donc, là, par exemple, dans ma promo, on est deux classes d'à peu près 30 personnes. Voilà. Et cette année, c'est un peu particulier parce qu'il y a le DUST qui émerge. J'en parlerai après parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais du coup, on n'est pas beaucoup. Et donc, au mois de février, j'envoie un mail, du coup, à la secrétaire de l'école en lui disant, j'aimerais bien m'inscrire. Enfin, à quel moment faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a une date butoir? Elle me dit, vous y prenez tôt. Donc, elle me dit, trouvez un employeur. Donc, en fait, elle me répète ce qui était écrit sur le site.
C'est ça.
Voilà, tout simplement. Mais je me dis, je vais quand même envoyer un mail parce que...
On t'a bien fait.
Ouais, voilà. Et donc, après, sur le site de l'école, il y a les pharmaciens peuvent déposer, en fait, des annonces.
Ah, voilà. La marketplace des pharmaciens.
Tout à fait. Et donc, en fait, non, mais même pour les futurs apprentis, c'est facile, plus facile de trouver comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait. En fait, j'ai lu tous les offres d'emploi auxquelles je pouvais prétendre par rapport à mon lieu d'habitation, où est-ce que je peux aller, tout ça. Et donc, après, j'ai envoyé des CV et puis j'ai fait des entretiens. Et en mars, j'ai trouvé, du coup, mon officine et je me suis inscrite à l'école. Génial. Et donc, là, je me suis dit... Ok, c'est bon, c'est sur la route, tout va bien. Mais c'est vrai que c'était un peu stressant parce que je me suis dit, oh là là, j'ai fait elle et tout, ils vont pas vouloir de moi, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle débarque comme ça. Et en fait, je pensais qu'en faisant elle, c'était pas possible, mais c'est pas vrai.
C'est pas un frein.
Non, pas du tout. peu importe en fait les études qu'on a faites avant, c'est pas un frein. Après, il faut travailler parce que c'est pas facile.
Bien sûr.
Mais vraiment, c'est pas une formation qui est fermée. Enfin, en tout cas, jusqu'à moi, parce qu'après, le DUST, c'est autre chose. Parce que maintenant, en fait, comme notre diplôme, en fait, c'est un BP. Et du coup, la profession trouvait que c'était pas suffisamment. Comment dire ça ? Reconnu, enfin, fallait un petit peu redorer le blason de la profession, quoi.
D'accord.
Clairement. Et donc, ils ont décidé que ça allait devenir un DUST, donc en fait, passer par la fac, en gros.
D'accord.
Donc maintenant, pour pouvoir s'inscrire, il va falloir aller sur Parcoursup.
Oh là là, le fameux.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça, enfin, moi, je suis pas trop, trop contente de ça parce que je trouvais justement que c'était bien d'avoir cet accès comme ça, un peu à côté, quoi, parce que Parcoursup, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très démoralisant pour l'avoir fait.
Ouais,
vraiment, c'est très compliqué. Et donc, j'ai peur, en fait, qu'ils ferment un petit peu les portes aux personnes qui auront fait un parcours un peu plus littéraire, même si aujourd'hui, le bac, maintenant, c'est plus comme ça. C'est des histoires d'options.
Oui, ouais. Mais il restera quand même des profils un peu plus littéraires que d'autres. Ouais,
tout à fait.
Dans le choix des options.
Ouais, et donc je pense que ça va faire des classes un peu plus scientifiques et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà. Et donc après, y aura toujours un peu d'école, donc là où moi je vais actuellement, une semaine de fac et puis aussi de l'officine. Mais du coup, les cours se déroulent pas du tout de la même façon. Mais d'accord. Je peux pas en parler parce que je connais personne en fait de la classe de DUST parce qu'on les voit pas.
Donc toi, tu fais partie comme d'un ancien référentiel de formation, du coup.
Tout à fait, ouais, c'est le référentiel de 1997.
Ah oui,
ça date un peu. Et effectivement, ouais, ouais. Et donc, nous, en fait, on est la dernière promotion du BP, en fait.
Très bien, ok.
Donc, finalement, je me dis, je suis très bien tombée parce que je voulais pas aller dans le DUST, même si là, cette année, on avait la possibilité de choisir, mais j'avais pas envie parce que je me suis dit, moi, je viens déjà d'une formation de fac et tout, j'avais pas envie, en fait, d'y retourner. Et surtout, je pense qu'ils font des choses peut-être un petit peu plus poussées en chimie, dans les matières comme ça. Et clairement, moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc j'avais un peu peur de ce que ça allait donner.
Et du coup, on vous a donné cette possibilité de basculer dans ce cursus-là, d'accord ?
Tout à fait.
Et il y a des gens de ton école qui ont fait ce choix-là ?
Dans ma classe, non. Après, du coup, ceux qui ont... En fait, à l'école, ils ont réparti, en fait, quand ils ont fait les classes... Ils ont réparti, il y a vraiment une classe de DUST, vraiment, ils
sont 30. D'accord, bien ça.
Ouais, voilà, donc en fait, on est trois classes, il y a deux classes de BP et une classe, du coup, de DUST. Et donc, c'est un peu une année de test, si tu veux. Fait, ils testent un peu, là, pendant un ou deux ans, voir un peu ce que ça donne. Et puis, du coup, on est vraiment la dernière promo du BP. Du coup, ça fait un peu bizarre de se dire qu'on fait partie des derniers préparateurs qui vont être diplômés de cette façon-là.
Alors moi j'ai fait, tu vois, rien à voir, c'était les études d'infirmière, mais moi j'ai commencé mes études en 2007 et je dis pas de bêtises, ceux qui ont démarré les études en 2009, donc 2 ans après moi, sont passés dans un nouveau référentiel de formation.
Ouais.
Et on avait très très peur qu'on soit catégorisés comme les infirmiers de l'ancien référentiel, les infirmiers du nouveau référentiel. Alors ça a été le cas pendant quelques années, vraiment, objectivement, on entendait... dans des embauches, elle c'est l'ancien référentiel, elle c'est nouveau, et puis maintenant c'est fini en fait. C'est quelque chose dont on parle plus du tout. Ça se lisse avec le temps. Enfin, je vous souhaite la même chose pour vous, mais.
Ouais, j'espère.
Voilà, là c'est une transition, c'est beaucoup de changements. Il y a probablement cette volonté d'harmoniser aussi avec Parcoursup. Alors c'est à la fois désastreux et à la fois compréhensible. Bon, avec les années, probablement que ça sera. Plus une question, même plus un sujet, quoi.
Non, bien sûr que non, mais c'est surtout en fait pour qu'on puisse après, avec le DUST, en fait, avoir accès à des licences professionnelles et à des formations derrière, parce qu'aujourd'hui, du coup, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si un préparateur veut se former, je sais pas moi, à l'aromathérapie, à l'homéopathie ou à la phytothérapie, enfin des médecines un peu comme ça, un peu alternatives, du coup, en fait, c'est pas possible. Donc, c'est surtout en fait pour ça, et puis pour qu'on ait une reconnaissance en termes de diplôme. Que ce soit plus valorisant, qu'on soit un bac plus 2 en fait, parce que là en fait le BP c'est un niveau bac si tu veux, en fait à la fin, même si on a fait 2 ans d'études, parce que ça dure 2 ans, je l'ai pas dit, même si on a fait en fait 2 ans d'études, et en fait on n'est pas reconnu bac plus 2 aujourd'hui. D'accord. C'est reconnu bac, du coup c'est un peu dommage parce que c'est quand même un métier Enfin, je veux dire, on donne pas des bonbons, comme
ah,
on
mais
dit.
Clairement, ouais, ouais. Voilà. En termes de compétences, c'est ouais, quelque non. chose, quoi.
Voilà. Voilà, c'est clair. Et donc, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très reconnu. Mm-hmm. Et c'est ce que la profession cherche. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont inscrit ça dans ce parcours-là de faculté.
Très bien, très bien.
Voilà, c'est pour ça. Oui, revalorisation du métier, et donc du salaire, et donc de tout ce qui va avec. Bien qu'aujourd'hui, c'est tellement un métier, en fait, en pénurie, que clairement, quand on va arriver à la fin, on pourra facilement... négocier, comme on dit, un petit peu le salaire qu'on a envie, en accord avec le pharmacien, bien sûr, qui va nous embaucher. Mais c'est ce qu'ils nous disent à l'école, en fait, qu'il y a tellement de pénurie qu'en fait, il n'y aura pas de difficulté à trouver un poste après. Et c'est ça aussi qui me plaisait bien, c'est qu'il y a la sécurité de l'emploi derrière. Ah, et donc, ça, c'est chouette. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose de pas négligeable, quoi. Donc,
Ah non, c'est hyper important. Et puis de ouais. savoir que si tu t'épanouis plus dans un secteur en particulier, tu peux aussi voilà. changer. Et c'est ouais. c'est une petite assise qui est confortable, quoi, quand même.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est chouette. C'est vraiment un métier qui est riche, quoi, qui est vraiment chouette. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de participer. Que c'est un métier qui n'est pas du tout... c'est pas médiatisé, on n'en entend jamais parler.
C'est vrai, ouais.
Même là, pendant le Covid, on parlait beaucoup des infirmiers. Et c'est normal, bien sûr, parce qu'ils ont fait un travail vraiment... J'ose même pas imaginer, en fait, vraiment l'envers du décor de ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que je pense qu'on ne sait pas tout. On parle beaucoup aussi des médecins. Voilà, aujourd'hui, avec ce qui se passe en ce moment avec eux, on en parle beaucoup.
Bien sûr.
Un peu des pharmaciens, non, les préparateurs.
Ouais, ouais. Mais tu sais, à l'hôpital, c'est pareil. Hein, les aides-soignants, oui. les agents de service.
Voilà. Les manip radio, je pense aux manip radio, on n'en entend jamais parler.
Ouais.
Y a beaucoup de métiers comme ça. Les laborantins, voilà, tous ces gens-là derrière qui font que ça fonctionne, en fait. Et
bien sûr.
On n'en entend jamais parler et je trouve ça un peu dommage. Donc,
Non, mais tu as tout à fait raison.
Voilà, ouais.
Alors, je vais te poser une question, moi, à laquelle j'ai déjà la réponse, oui. mais je pense que c'est important. Quelle est la différence entre pharmacien et préparateur en pharmacie?
Alors, déjà, premièrement, il y a les études. Enfin, pharmacien, du coup, il faut passer par médecine. C'est 6 ans d'études, du coup, à la fac de pharmacie. Et donc, préparateur, comme je l'ai dit, nous, c'est 2 ans en apprentissage. Voilà. Donc, avec le DUST... faudra voir un peu les modalités. Alors, si ça vous intéresse, je pense qu'on peut taper DUST préparateur et puis il y a la fiche qui sort avec toutes les modalités de cette façon de faire aujourd'hui.
On essaiera de mettre ça dans la description de l'épisode.
C'est ça, ouais, pour les gens qui se posent des questions, parce que du coup, comme c'est pas tout à fait sur les rails, je peux pas vraiment dire ce
sûr.
Que ça va donner.
Oui, tu veux parler que de ce qui te concerne. Oui, ouais, on essaiera de trouver quelque chose pour cet aspect-là.
Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, le pharmacien, en fait, tout simplement, il a... Je ne sais pas vraiment comment dire, parce qu'en fait, en réalité, dans la pratique, on fait la même chose. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de dire la différence. Bon, déjà, il y a le temps d'études. Le pharmacien, il est docteur en pharmacie, en réalité, parce que ça, on oublie souvent, mais c'est des docteurs en pharmacie qui ont passé, du coup, une thèse, qui sont thésés, qui ont énormément de connaissances sur tout le milieu de la santé. Enfin, vraiment, il y a les médicaments, il y a aussi tout ce qui est phyto, homéo, aromathérapie, tout ça. Il y a la connaissance des maladies.
Mmh. Les interactions entre les médicaments, les effets
ça.
Désirables.
Tout à fait. Voilà. Non, vraiment, pour moi, ce sont des encyclopédies ambulantes. Vraiment, ils savent des choses, c'est impressionnant. Il y a aussi la façon de soigner les maladies, etc. Enfin, ils savent lire aussi les prises de sang, parce que ça, c'est important, parce que parfois, il y a des patients qui arrivent et qui nous donnent la prise de sang et qui nous disent alors... Oui, ça arrive. Moi, j'ai jamais vraiment encore vu, mais dans certaines officines, ça arrive. Ouais, c'est pour ça que nous, on doit savoir à peu près savoir dire les normes en fait.
Qui peut alerter ou. Mais ouais. C'est vrai que la pharmacie, ça restera pour et peut-être pour une ancienne génération le repère, le phare dans l'obscurité.
Moi, c'est comme ça. Enfin, en tant que patiente, c'est comme ça que je le ressentais vraiment. Moi, je rentrais dans une pharmacie, je me disais, ok, là, il peut rien m'arriver. Je suis dans un endroit vraiment, c'est sécurisant. Je suis avec des gens, enfin des professionnels. Ils savent de quoi ils parlent. Il n'y a pas de, il y a pas d'erreur possible, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un endroit très, un phare dans la nuit, quoi. On a un problème, premier réflexe, on va dans une pharmacie, parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un médecin tout de suite.
C'est
un peu encombré, c'est un peu difficile. Donc c'est vrai que, mais c'est bien qu'il y ait cette Quand il y a cette voix-là, je sais pas, on a, je sais pas, un petit rhume, un peu mal à la gorge, bah, au lieu de prendre rendez-vous, on va à la pharmacie, puis le pharmacien, il donne ses conseils, voilà. Mm-hmm. Et souvent, en ce moment, on a beaucoup des gens qui viennent pour ça, parce que c'est la période où ils sont un peu malades. Mais du coup, je trouve que c'est chouette. Mm. Voilà, et donc après, l'autre grande différence, c'est que le préparateur, à la base du métier, c'est bah, en fait de faire des préparations, c'est-à-dire de préparer des médicaments, donc des gélules, des crèmes, des pommades, des suppositoires, des ovules aussi. Donc à la base du métier, en fait, c'était ça. Dans les anciennes officines, du coup, il y avait le pharmacien qui dispensait en fait l'ordonnance et le préparateur, en fait, qui préparait bah, les gélules, les crèmes et tout ça.
Ah, et qui était peut-être moins au contact des patients.
Tout à fait. En fait, à la base du métier, nous, en fait, on a un peu des techniciens du médicament. En fait, à la base, ce qui comptait vraiment beaucoup, c'était la préparation. Aujourd'hui, on n'en fait plus du tout. Enfin, en tout cas, moi, dans mon officine à moi, on n'en fait pas. On délègue tout à une autre officine qui a un préparatoire gigantesque. Et donc là, ils font toutes les préparations. Et même aujourd'hui, enfin, il y a tellement de spécialités en fait, qui existent sur le marché du médicament qu'il n'y a quasiment plus besoin de préparer, en fait, de préparer des médicaments... comme ça, sauf certaines choses bien précises.
Bien précises, oui. Mais voilà. C'est vrai que maintenant, quand, ça m'est arrivé il y a quelques années, un dermatologue qui m'a prescrit quelque chose de bien particulier, il m'a dit, c'est une préparation à faire réaliser en pharmacie, mais il faut aller à cette pharmacie-là. Tout le monde ne pourra pas vous la faire.
Ouais. Ah non, bah non, parce qu'en fait, il faut avoir un préparatoire qui soit agréé, et en fait, qui soit aux normes, et donc c'est assez... Enfin, c'est très contraignant, quoi, pour le peu de préparation en fait, qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Bah, ça, enfin, on va dire, ça sert pas à grand chose pour chaque officine d'avoir son préparatoire aux normes finalement.
Donc ça, c'est quelque chose qui fait plus forcément partie de votre formation aujourd'hui, cet aspect-là.
Alors si, on a quand même, ouais, si à l'école, on a toute une matinée de TP où on fait, enfin, ça s'appelle le TP de préparation de conditionnement des médicaments. Okay. Où du coup, on prépare des gélules, des crèmes. Enfin, pour l'instant, on a fait que ça, donc je peux te parler que de ce qu'on a fait là depuis septembre. Donc on a fait des gélules et des crèmes. Et puis on apprend à les mettre en pot, à les préparer selon une ordonnance et tout ça. Donc c'est chouette. Mais c'est assez difficile finalement. C'est pas un cours où je réussis le mieux, j'avoue. C'est assez dur. Non, mais c'est vrai, en fait, on se rend pas compte. Mais comment dire, il y a des. Enfin, faut pas qu'on se trompe en fait au niveau des calculs sur le principe actif parce qu'après, on peut pas le donner au patient si la quantité en fait n'est pas respectée. Pareil, si la mise en pot n'est pas très soignée, très propre, comme ce qu'on peut acheter dans le commerce, bah, ça ne va pas, on ne pourrait pas le donner. Donc en fait, on est jugé vraiment sur est-ce qu'à la fin, est-ce que la préparation, on pourrait la délivrer à un patient.
Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est sûr?
Oui, tout à fait. Okay. Donc bon, pour l'instant, du coup, on tâtonne tous un peu, c'est vrai, parce que c'est vraiment pas facile.
C'est le début aussi. Hein.
Ouais,
ça sera sûrement plus facile dans un an et demi.
Oui, je pense, oui. Et moi, je trouvais que faire les gélules, c'était plus facile que faire une crème. Ça peut paraître... Mais je trouve ça plus facile de faire une gélule qu'une crème.
Avec les sortes de grandes grilles, là, où tu mets toutes les demi-gélules.
Ouais, ça s'appelle un gélulier.
Un gélulier.
C'est ça, ouais, ouais. En fait, on a une plaque, on met toutes les petites gélules dedans ouvertes, et après, on met la poudre dedans, et avec une espèce de... En fait, on fait ça avec une carte à jouer. On répartit en fait la poudre dans les gélules, voilà, et après on ferme les gélules en fait, tout simplement.
Alors il y a un compte TikTok, parce que je trouve que c'est extrêmement satisfaisant à regarder, donc il y a une américaine que je suis, qui est, alors je ne sais pas si c'est l'équivalent de la préparatrice en pharmacie aux États-Unis, je ne sais absolument pas comment se déroule la profession, mais, et qui fait ça, et alors aux États-Unis, ça a l'air d'être, enfin je veux dire, elle en fait des quantités par jour.
Ouais, en fait aux États-Unis c'est pas du tout, ouais c'est pas pareil, moi j'avais regardé, alors j'ai trouvé un exemple au Canada, enfin sur un blog en fait d'une dame qui était préparatrice là-bas, qui avait exercé en France en fait, qui est partie là-bas.
Ah, très bien.
Et donc elle racontait qu'en fait là-bas, c'est le pharmacien qui dispense tout, et le préparateur en fait fait le dossier du patient, et ensuite il va préparer en fait, bah, vous savez c'est les petits tubes là
Vraiment nominatif quoi, pour les patients.
Voilà. Et en fait, ils déconditionnent les médicaments pour les mettre en fait, dans le tube. En fait, ils préparent à chaque fois les choses. Donc, je pense qu'ils ont plus de préparation que là-bas.
Ouais,
et c'est le pharmacien qui délivre et qui donne les conseils. Le préparateur n'a pas le droit de délivrer ou donner des conseils là-bas.
C'est très différent.
Ouais, en fait, ils sont vraiment restés sur la base du métier de préparateur. Vraiment, bah, comme l'intitulé le dit, préparateur, on prépare.
Oui, ouais, alors qu'en France, le métier a évolué et sera encore à évoluer. Ouais,
ouais, c'est ça. Bah, aujourd'hui, en fait, on nous dit qu'on est les assistants du pharmacien, mais c'est tout à fait ça. Enfin, en fait, on fait la même chose en pratique à l'officine. Enfin, on accueille les patients, on délivre les médicaments, on donne les conseils. Voilà, ou même quand il y a quelqu'un qui est malade qui rentre, on conseille, je sais pas moi, un sirop, des pastilles, des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut vacciner aussi contre la grippe, contre le Covid. On peut faire ça. On fait quoi d'autre ? On peut faire les tests. Aujourd'hui, les tests antigéniques pour le Covid. Voilà, on en fait beaucoup. On a toutes ces missions-là qui n'étaient pas vraiment là avant. Et puis derrière, il y a aussi toutes les missions de logistique. Enfin, il y a les commandes, il faut réceptionner les commandes, il faut ranger les médicaments, il faut passer les commandes. Mmh. Puis il y a aussi le côté commercial, parce que il y a tout le côté parapharmacie, où là, on peut conseiller du coup les produits de beauté, les crèmes, les choses comme ça.
Comment est-ce que vous êtes formée du coup sur cet aspect-là de la parapharmacie ? Est-ce que ce sont les marques qui viennent vous voir pour vous vendre, entre guillemets, leurs produits ?
Ouais, en fait, le pharmacien titulaire de l'officine, enfin en tout cas chez nous, ça se passe comme ça, c'est la titulaire qui reçoit les labos et les représentants. Mmh. Mais dans d'autres pharmacies, ça peut être très bien un préparateur qui peut recevoir tout à fait les labos de para. Et donc, en fait, oui, c'est ça. Parfois, on a les labos avec lesquels on travaille, en fait, qui viennent, ils nous disent, ça, c'est notre nouveau produit. On a fait rentrer une nouvelle gamme, nous. Alors, du coup, elle est venue, la dame, elle nous a montré, en fait, les différents produits. Elle nous a dit, cette crème-là sert à ça, ça, c'est comme ça. Il faut... Voilà, en fait, c'est un peu du marketing. Hein,
Complètement, ouais.
C'est ça. Enfin, si c'est un commerce, en fait, on est commerçant et en même temps, on a un métier de santé.
C'est ça.
C'est les deux aspects du métier et c'est intéressant.
C'est pas trop difficile, justement, de jongler entre les deux. Peut-être que quand tu es sur l'aspect parapharmacie, tu peux te permettre d'émettre un avis personnel, là où côté santé, on ne peut pas, avoir d'avis, non. Quoi, je veux dire, ce sont des faits.
Ouais, c'est un peu difficile d'avoir un avis sur un médicament quand même, on n'a pas d'avis à donner en fait sur le traitement qui est prescrit aux patients. Enfin, c'est pas notre travail de dire, le médecin, moi j'aurais pas mis ça, j'aurais mis plutôt une autre spécialité. Ouais. Enfin, c'est pas notre travail. Nous, on est là pour dire si jamais il y a une interaction flagrante entre deux médicaments, on ne peut pas délivrer, du coup, il faut appeler le médecin. Enfin, voilà.
Ouais, la sécurité dans le traitement.
Tout à
quoi.
Fait. Mais on n'est pas là pour dire, oh là là, dis donc, ce médecin, il fait n'importe quoi. Moi, j'aurais mis, autre chose. Là, ça ne me plaît pas. c'est pas notre travail. Et oui, après, on parlera. Oui, là, on peut dire, je ne sais pas. Moi, je préfère cette crème-là à une autre crème parce que je trouve que, sensoriellement parlant, elle est mieux, qu'elle agit mieux. Enfin, voilà. Là, on peut donner notre avis. Moi, je suis dans une officine, on ne fait pas beaucoup de para. Donc, je ne peux pas vraiment dire le ratio ou est-ce que c'est plus facile ou plus difficile. Je ne pense pas que ce soit si difficile que ça de switcher entre les deux parce que ça fait vraiment partie du métier. Et en fait, en tout cas, pour ma part, moi, je le vois comme aussi du soin au patient s'il a besoin d'une crème. Je ne sais pas, moi, pour traiter l'acné, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre ou parce qu'il a une peau très sèche en hiver parce que c'est pareil, c'est inconfortable. Pour moi, c'est vraiment aussi de la santé, finalement. Enfin, ce n'est pas quelque chose de futile, en fait. Pour moi, les cosmétiques, ça fait partie de la santé.
Et même aussi, la crème solaire, alors oui, elle n'est pas blanche, oui, elle ne colle pas, mais à la fin, c'est quand même un
filtre solaire. Oui, la crème solaire, très important. Ouais. On met tous les jours, faut pas oublier.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai, et ça, beaucoup de gens en fait, ne le savent pas, que même en hiver, même quand on est à la maison, dès qu'en fait, il y a une source de lumière, dès qu'on voit la lumière, il y a les UV qui passent, et donc c'est très, très important d'en mettre tout le temps et la bonne quantité aussi.
C'est vrai. Alors, j'ai vu, la bonne quantité, c'est l'équivalent d'une cuillère à café pour le visage. Enfin,
beaucoup. Je crois que c'est 2 mg par centimètre carré. Ça fait 1 g, en fait, pour le visage en tout.
Ah ouais.
C'est 1 g. C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Ça fait beaucoup. Ouais. Mais ouais, c'est 1 g. Donc, moi, je m'étais amusée, en fait, à peser 1 g de crème. Vraiment. De crème solaire parce que j'ai un peu pointueuse, j'avais envie de voir en fait vraiment ce que ça représentait et ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Et en fait, on met pas ça quotidiennement.
La moitié quoi. Si on fait pas gaffe, on doit être à moins de la moitié.
Ouais, c'est ça. Je pense que oui, objectivement, du coup, la protection est moindre, mais c'est toujours bien de le faire quand même si c'est important.
C'est sûr.
Donc, ce rôle là aussi de santé, de prévention, de conseil, c'est chouette.
Est-ce que il existe d'autres lieux d'exercice que l'officine ? Donc l'officine, c'est la pharmacie de quartier qu'on connaît.
Tout à fait. Oui, on peut travailler à l'hôpital en fait. Et donc là, on est vraiment préparateur parce qu'en fait, on voit pas les patients et on prépare tous les traitements pour tous les services. Je pense par exemple aux poches pour la chimio, par exemple aux piluliers pour les infirmières. Toutes ces choses là. Et donc, moi, c'est vraiment un endroit que je connais pas très bien, parce que du coup, là, la formation qu'on fait, on a en fait 2 ans et on peut exercer en officine, mais si on veut exercer en fait à l'hôpital, il faut faire 1 an en plus. Où là, voilà, il y a 1 an supplémentaire à faire. Ou pour nous préparer en fait, parce que du coup c'est pas du tout la même chose, les spécialités sont pas les mêmes, on travaille pas avec les mêmes médicaments, avec les mêmes pathologies, c'est pas du tout pareil. Donc par exemple là on étudie pas du tout, nous les poches de chimio et ces choses là c'est des choses qu'on verra pas, et en fait qu'on voit pendant l'année de préparation à la pharmacie hospitalière. Donc c'est une année en plus, et enfin moi c'est pas dans mon projet de le faire, parce que enfin vraiment de ce que les professeurs nous en ont dit, c'est vraiment, on est vraiment dans la pharmacie, donc dans le sous-sol un peu de l'hôpital, tout seul entre nous.
Je vais pas trop dire, mais franchement, ça ressemble souvent à ça.
Hein. Ouais, je pense.
Et une cave sans fenêtre.
Ouais, c'est
non,
ça.
Mais c'est vraiment. Ouais. C'est un peu triste. Hein. Et franchement, je l'ai vu dans plein d'établissements.
Toi, du coup, tu as dû voir comment c'était la pharmacie. Ouais, et je pense que ça doit pas être... Alors après, je pense que si on est dans une bonne équipe et tout, ça peut être super chouette, et c'est un autre aspect du métier, ça peut super bien se passer, etc. Mais on voit très peu de patients, il n'y a pas le contact, on n'a pas ce devoir de conseil. Fin...
Ah oui, c'est très très différent.
Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve qu'en fait, le conseil et le contact avec les patients, c'est ce qui fait le cœur de notre métier. Donc,
Puis toi, c'est ce qui t'a donné envie d'aller vers
voilà,
ce métier.
Et
ça serait presque un peu contradictoire de te tourner vers l'hospitalier.
C'est ça. Après, je ne dis pas, peut-être qu'après 20 ans de carrière, j'en aurais marre d'être
bien sûr. Ah non, mais
j'aurais peut-être envie d'évoluer. Mais en tout cas, non, pour l'instant, ce n'est pas une voie qui m'intéresse. Mais du coup, on peut faire ça. On peut travailler dans l'industrie aussi, je crois. Mais du coup, je pense que la pharmacienne que tu avais interviewée, elle en avait peut-être parlé un peu de ça, je crois. Si je me souviens bien de l'épisode, elle en avait un petit peu parlé. Et puis après, on peut aussi devenir cadre de santé.
D'accord.
Ouais, quand on a fait, du coup, je crois que c'est 5 ans d'exercice, on peut passer le concours des cadres et aller à l'école des cadres, ensuite devenir cadre de santé. Voilà, on peut faire ça aussi. Mais en fait, il y a plein d'évolutions possibles. C'est un métier qui est assez ouvert. On peut travailler vraiment. Même, je pense, pour les laboratoires de cosmétiques, je pense aussi que ça, c'est un profil en fait, qui peut intéresser.
C'est sûr. Et est-ce que tu aurais une passerelle avec le métier de pharmacien ? Eux démarrent par le tronc commun avec la médecine ?
Tout à fait, oui, en fait, on peut rentrer, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2e ou 3e année de pharmacie, une fois qu'on a en fait le diplôme de préparateur, et donc si ça nous intéresse, en fait là par exemple à l'issue des 2 ans, si j'ai envie en fait de me dire allez vas-y je vais faire pharmacien, et ben ils regardent en fait la moyenne de, bien sûr les moyennes de ce qu'on a eu en fait pendant les 2 ans, voilà. Donc surtout en fait tout ce qui est anat, physio, pharmaco, botanique, enfin toutes les matières en fait très scientifiques, qui regardent les notes vraiment de ces modules là. Et ensuite, il y a vraiment un dossier, un oral à passer. Et ils en prennent vraiment que très, très peu. Enfin, c'est assez rare de pouvoir faire la passerelle. Enfin, en tout cas, dans mon école, de ce qu'on en sait, c'est quand même... Tous les ans, je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes de la promo qui arrivent à y aller. Mais c'est assez rare.
Okay.
Parce qu'après, ben, vraiment, ça n'a rien à voir, les études... Enfin, vraiment, les études de pharmacien et nous, nos études, il y a... vraiment un petit tronc commun, mais ça n'a rien à voir. Enfin, la fac de pharma, c'est quand même beaucoup plus poussé, c'est pas du tout pareil. Mais du coup, oui, on peut quand même y aller. Mais je pense qu'il faut s'accrocher, parce que là, déjà, ce qu'on fait là, c'est quand même assez difficile, vraiment. Donc, je pense qu'il faut vraiment être très, très bon.
Et du coup, tu es sur quel type d'alternance ? Une semaine en cours, une semaine à l'officine
ou... Ouais, alors nous, on n'est pas... Enfin, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas écrit, en fait, vraiment... comment dire ça ? En fait, c'est pas vraiment très régulier. En fait, souvent, on fait 15 jours d'officine, une semaine d'école.
D'accord.
Mais par exemple, là, pour le mois de décembre, j'ai tout le mois de décembre, je suis à l'officine et je reprends l'école que le 2 janvier, par exemple.
Ok.
En fait, parfois, il y a des... Ça... En mars, ce sera... Non, oui, en mars, je crois que c'est à peu près la même chose. On a vraiment 3 semaines. Et du coup, ça dépend. Parce qu'en fait, ils font aussi tourner les 2e années. Et du coup, nos 3 classes, en fait, de 1re année et puis les 2e années. Donc, c'est vrai qu'en fait, parfois, on peut avoir des moments où il y a plus ou moins de temps d'officine. Et donc, en fait, sur l'année, on a 12 semaines d'école en tout.
Ah, c'est tout. C'est pas
plus
énorme,
que ça.
Hein.
C'est très peu. Oui, non, c'est très, très peu.
C'est beaucoup sur le terrain.
Ouais, on est beaucoup sur le terrain et c'est une formation qui est difficile parce que c'est très, très, très condensé. Vraiment, les semaines d'école, c'est 35 heures, comme quand on est en fait, à l'officine. Voilà. Et en fait, on a des polis qui sont très, très épais. Parce qu'en fait, si on écrivait les cours, enfin, on n'y arriverait pas en 2 ans, c'est pas possible. Mmh. Donc, vraiment, ce sont des polis qui sont très épais. Et en fait, on fait un peu comme en médecine, quoi. On surligne les choses et le prof nous explique. Et c'est vraiment, on n'a pas vraiment... Enfin, il faut beaucoup travailler à la maison. Parce qu'à l'école, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour voir chaque chose. Donc... 12 semaines de cours, ça passerait très vite.
Ah, c'est sûr.
Bah, là, oui. Jour, en fait, on a la moitié, quoi.
Ouais, donc ils vous donnent le travail, et puis voilà. Ils vous laissent le soin derrière, vous, de trouver une méthode de travail, quoi.
Dans notre école à nous, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois qu'on finit un cours, donc en fait, un poli, ils nous posent des questions sur les points les plus importants à retenir. Et donc après, on répond aux questions, on les corrige. Et en fait, les questions, ça constitue en fait notre fiche, notre base de travail, des choses à savoir, en fait, pour ce cours-là. Et on fonctionne comme ça. Et ça, c'est chouette, c'est hyper rassurant d'avoir ce système-là, de se dire, bah là, on a fait les questions avec le prof, donc du coup, si j'ai une question, comme ils sont très accessibles, c'est vraiment une petite école, quoi. Mmh. Moi, j'ai l'impression d'être au lycée, en fait, parce que du coup, on est dans une classe de 30, où tout le monde s'entend très bien. Moi, j'ai la chance d'avoir une classe absolument géniale.
Ah, trop bien.
Ouais, non, c'est super, parce que souvent, dans les classes, il y a des petits groupes, quoi, qui se forment, et nous, pas du tout, vraiment, on s'entend tous super bien. Donc, c'est vraiment très agréable. Et les profs sont très, très accessibles. Donc, s'il y a un problème, on peut aller les voir et puis leur dire, bah voilà, là, j'ai pas compris ce point-là du cours. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Ils le réexpliquent, ils prennent le temps de le faire. Et à la fin, c'est vrai que je pense qu'on devrait quand même réussir à être tous diplômés parce qu'on est vraiment très bien accompagnés. Donc, c'est bien, même si c'est condensé et difficile. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'il y a le dust parce que...
Eh oui.
Ouais, en 2 ans, c'est franchement...
c'est très, très dense.
Dur. Ouais, c'est dense, quoi. Faut s'accrocher. Mmh. C'est 2 ans un peu entre parenthèses, quoi. Faut tout le temps travailler, faut pas lâcher. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, quoi. Les médicaments et tout, faut les apprendre par cœur. Le nom du princeps, le nom du générique, les effets indésirables, les contre-indications, les interactions, faut tout savoir. Donc, les posologies max, je pense au Doliprane, par exemple, les posologies max, il faut les savoir. Mmh. C'est vraiment, enfin, il y a tellement, c'est riche, quoi. Mais c'est super intéressant.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Si on peut donner un exemple, par exemple, paracétamol, c'est le nom de la molécule.
Tout à fait, oui.
Et puis après, on le vend sous...
sous diète de fort, quoi. Voilà, il y en a un qui est plus connu. Mais oui, il y a plein, tout à fait, il y a plein de... Après, ça, c'est parce que c'est un brevet qui est un peu universel. C'est un médicament qu'on délivre beaucoup, beaucoup. Quasiment à chaque délivrance, il y en a. Mm. C'est un médicament qui tourne bien, comme on dit.
Mm. On après, il y a les dosages, il y a les formes. Alors voilà, comprimé, effervescent, la galénique, voilà, en suppositoire.
J'ai lu les trucs. Oui. Donc, en fait, il faut savoir à chaque fois. Puis, si c'est pour un enfant ou pour un adulte ou pour une personne âgée, s'il y a... des contre-indications que les traitements habituels. Enfin, quand on donne une spécialité, c'est pas sans risque. Enfin, voilà, faut faire très très attention. Donc c'est vrai que parfois, quand les gens vont à la pharmacie et puis qu'on leur dit, vous connaissez le traitement, est-ce que vous prenez un traitement habituellement, ça les énerve un petit peu. Mais c'est parce que je pense qu'ils n'ont pas conscience que s'ils prennent vraiment deux molécules qui ne s'entendent pas du tout, ça peut vraiment être très grave pour eux. Et il faut faire très attention. Donc, c'est un métier, en fait, où dès qu'il y a quelqu'un qui se présente devant nous au comptoir, il faut être tout le temps être très vigilant, en fait.
Et même, je pense à même d'autres choses que des interactions, mais si on prend l'exemple des antivitamines K, qui sont donc des anticoagulants qui sont très puissants, même en termes d'alimentation, derrière, il y a des choses qu'on ne doit pas manger qui viendraient un peu réduire les effets du médicament. Alors, c'est plus que du conseil sur des interactions, mais ça va parfois plus loin, quoi.
Oui. Enfin, c'est vrai qu'il y a certains médicaments qui nécessitent d'avoir un régime alimentaire particulier où il faut faire très attention. Donc, il faut que les patients soient très coopératifs et en fait, qu'ils comprennent bien pourquoi est-ce qu'avec un tel médicament, ils ne peuvent pas manger tel ou tel aliment. Il faut bien leur expliquer pourquoi. Et puis, il faut les accompagner surtout. Enfin, faut être là pour eux, pour répondre à leurs questions. Il faut les rassurer parfois parce que je pense par exemple à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, qui vient chercher son traitement. Il y a des situations comme ça qui sont très très difficiles où là faut être très bienveillant, très empathique, à l'écoute, faut accompagner son patient et ça c'est super important. Et en fait à la fin ils sont contents souvent des conseils, du temps qu'on a pris pour eux, des conseils qu'on leur a donné, la plupart du temps ils sont contents.
Et vous êtes l'un des maillons de la chaîne, voilà. Le ouais. médecin qui prescrit, le pharmacien ou le préparateur qui délivre. Et voilà, c'est pas juste délivrer les ouais. médicaments, c'est tout l'accompagnement non. qui va avec. Alors ouais, ça me ouais, fait une super ça. Transition sur ma question qui du coup est quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour exercer ce métier?
Alors, je dirais en premier l'empathie. Vraiment, ça pour moi, c'est... En fait, je pense qu'à partir du moment où on travaille avec des gens, quel que soit le milieu dans lequel on évolue, il faut être empathique.
Ah oui, quel que soit le secteur, c'est vrai.
Non, mais c'est ça. Qu'on fasse de la vente voilà, dans une parfumerie, par exemple, ou qu'on fasse, je ne sais pas, qu'on soit serveur dans un restaurant. Enfin, dès qu'il y a des gens en face de nous, il faut être empathique, il faut être à l'écoute et bienveillant. Mais dans la pharmacie, ouais, l'empathie, ça compte beaucoup. Alors, faut pas trop l'être, comme dirait ma titulaire, parce que après, sinon, on se laisse un petit peu emporter par les histoires des gens, par leur pathologie, ouais, parce qu'ils sont en train de vivre et tout ça. Un peu comme dans ton métier d'ailleurs, c'est pareil. Enfin, si t'es trop empathique, si t'es trop avec les gens, c'est difficile de, ouais. de se détacher, de les laisser partir et puis de.
Ouais,
de
trouver la bonne distance, et c'est pas ouais. toujours facile. Hein. Ouais, ouais.
C'est ça. Difficile de pas s'inquiéter pour eux derrière et de se dire quand on rentre à la maison, ah bah, j'espère que. Un tel va bien, qu'il a bien pris son traitement, qu'il n'a pas trop d'effets secondaires. Enfin,
ouais.
faut pas trop. Faut savoir aussi être un peu détaché. Donc l'empathie premièrement, très important. Et après, je dirais que c'est être très consciencieux, pointilleux, très rigoureux, c'est important aussi. Parce que, enfin voilà, la pharmacie c'est un milieu. Alors, je dirais pas rigide, mais un peu quand même. Ou par exemple, il faut vraiment que les boîtes soient rangées tout le temps au même endroit. Parce que c'est vrai que dans le rush, eh ben, il faut qu'on puisse aller les retrouver rapidement.
Ouais, le risque d'erreur, ouais, mais c'est le genre de choses ouais. qu'on ne peut pas laisser s'installer. Quoi.
C'est ça, il faut vraiment que ce soit toujours rangé bien au même endroit. C'est très rigoureux comme, comme endroit vraiment. Par exemple, quand on reçoit les boîtes, c'est tout bête, hein, mais la boîte qu'on vient de recevoir, il faut qu'on la mette derrière et pas devant. Pour que, en fait, au niveau des dates de péremption, bah, ce soit pas. Mais c'est tout bête, et je pense que ça, les gens le savent pas, qu'il y a tout cet aspect-là derrière de. Bah, un peu de logistique, mais c'est super important. Donc, ouais, je dirais la rigueur, c'est important. Et puis, enfin, pour moi, c'est deux grandes qualités. En fait, il y a les qualités humaines qui sont au cœur du métier. Puis après, il y a aussi les qualités scientifiques. Enfin, voilà, faut savoir de quoi on parle, faut avoir les connaissances nécessaires.
Et alors, du coup, ton bagage plutôt littéraire. Ne te pose pas de soucis dans l'apprentissage?
Alors oui et non. Non, en vrai, je m'en sors plutôt bien. Enfin, là, on a fait du coup les espèces de premiers partiels, ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais c'est un peu ça, où vraiment, ça va, je m'en suis bien sortie, je m'attendais pas à ça, donc j'étais contente. En fait, c'est pas un frein. Comme je disais tout à l'heure, il faut travailler. Là, s'il y a des jeunes là, qui nous écoutent et qui veulent en fait faire ça, et qui ont fait L comme moi, ou ES, ou qui voilà, ou des filières un peu comme ça, bah, faut pas qu'ils aient peur, en fait, faut y aller, faut travailler, enfin, faut quand même bien s'accrocher. Par exemple, quand il y a des calculs à faire, et ben, faut les retravailler à la maison, faut les refaire, la chimie, toutes ces choses-là, bah, faut, en fait, tout est dans le cours, donc il faut bien apprendre son cours, il faut bien réviser, faut bien. Et si on comprend pas quelque chose, faut aller demander, que ce soit, en fait, à nos collègues à la pharmacie, qui peuvent nous aider. Enfin, on est qu'apprentis, donc ils sont là aussi pour nous apprendre et nous transmettre les choses, ou aux professeurs, ou aux membres de sa famille qui seraient forts en chimie ou forts en maths, ou voilà. Enfin voilà, ça peut tout à fait aider. Mais ouais, faut beaucoup travailler.
Mais c'est pas impossible.
Non, voilà, c'est pas impossible. En fait, on part un peu plus handicapé que quelqu'un, par exemple, qui aurait fait un bac S et puis qui a des connaissances plus poussées que nous dans les matières scientifiques. Mais on peut le faire parce qu'en fait, à l'école, ils reprennent tout depuis le début, vraiment. Là, par exemple, en chimie, je prends cet exemple-là, mais on a refait les atomes, les électrons, les protons, ces choses-là qu'on voit au collège ou au lycée, et ben on les a refaits.
Et qu'on voilà. oublie si on fait autre chose derrière, mais...
Bah, okay. Voilà, moi, ouais. je me souvenais pas du tout de ces notions-là. Puis quand on a fait quand, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, bon, ça m'intéressait pas trop, mais je m'en suis souvenue que... Non, mais c'est vrai, moi, c'est pas... Franchement, c'est pas des matières que j'aime bien, ouais. mais je sais que pour accéder au métier derrière qui me passionne, eh ben, il va falloir que je passe par là.
Voilà, et ça, c'est important à dire aussi. Moi, par exemple, en maths, au lycée, j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que je trouvais que c'était très abstrait. Et puis des X et des Y et des inconnus et des trucs, je voyais pas trop où ça allait en venir, surtout que je n'avais pas d'objectif de carrière dans ce domaine-là, donc vraiment c'était dur. Et une fois qu'on étudie quelque chose qui nous plaît, enfin moi quand on a commencé à me parler de milligrammes dans des millilitres, et ben c'est vachement plus clair en fait. C'est concret, c'est une seringue, qu'est-ce qu'il y a dans la seringue et qu'est-ce que j'administre. Et en fait, ça me fait penser quand on est petit, on a des problèmes de maths et on nous dit au lieu de dire X et Y, on dit des choux et des carottes. Bah voilà. Mmh.
Bah, non, c'est un peu pareil. Quoi.
Quand on parle voilà, de quelque chose qui va nous servir réellement dans une profession qu'on a envie de découvrir et qu'on a envie d'exercer, bah, c'est quand même plus facile. Quoi.
Tout à fait, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que du coup, là, c'est concret. Nous, quand on fait des calculs, en fait, on calcule des trucs tout bêtes. Hein, combien faut-il de flacons pour cette ordonnance? Enfin, on fait ça.
Oui, non, mais c'est pas simple non plus, quoi. Oui, 4 doses de 30 mg par jour.
C'est ça, en fait. Mais ça, c'est parce qu'on nous apprend à avoir cette gymnastique-là. Parce qu'au comptoir, bah, du coup, quand on a l'ordonnance, bah, ça va être écrit, je sais pas moi, 2 cuillères à soupe de sirop pendant, je sais pas, 7 jours, 3 fois par jour. Bah, faut calculer combien de flacons faut donner aux patients, pas qu'ils reviennent et nous disent bah mince, j'en ai pas assez quoi.
Ou t'en as donné 10 flacons alors qu'il en fallait 2 et qu'il n'y a pas de gâchis quoi.
Ouais. Ouais.
Et toujours cette gymnastique là.
C'est ça, on fait des calculs comme ça à l'école pour nous entraîner. Mmh. Puis après, on fait des trucs un peu plus. On calcule des volumes, on calcule des. Comment je veux dire ça ? On fait beaucoup de règles de 3. En fait, il y a beaucoup de règles de 3.
Ouais, ouais.
Et si vraiment il y a une base à avoir avant d'entrer dans cette formation-là, c'est maîtriser la règle de 3.
Ah, mais écoute, pour les infirmières, c'est pareil.
Bah voilà, c'est ça.
Mais et vraiment, c'est la base
de la base. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, vous faites aussi des calculs de doses, comme nous, en fait, on peut le faire. Donc du coup, c'est la même base, finalement. Mais du coup, ouais, s'il y a un seul conseil à donner, réviser la règle de 3, vraiment. Ça, faut la savoir parce qu'ils ne reviennent pas dessus. Tout ce qui est notion de calcul, ils ne reviennent pas dessus. À l'école, ça va vite. Donc, vraiment, en début d'année, on pratique, hein, mais ils ne vont pas nous réexpliquer la règle de 3. Qu'est-ce que c'est, comment on calcule, quoi.
Ouais. Mais voilà. Vraiment, si ça peut rassurer aussi des personnes qui nous écoutent, ça devient vraiment un automatisme derrière, en fait.
Ouais. Après, c'est facile. Au début, c'est un peu nébuleux.
Donc, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans beaucoup de domaines. Voilà, les études sont denses et tout, mais... Après, c'est vraiment un automatisme. Quand on vous donne un flacon de 20 mg dans X millilitres, on vous dit, il me faut 12,5. Et en fait, le calcul, il se fait tout seul.
Oui, voilà. Après, c'est naturel, c'est inné. Enfin, on le sait, à force de pratiquer les choses, il ne faut vraiment pas avoir peur. Même si au début, ça peut sembler un peu gigantesque quand on arrive comme ça dans une officine. Bah, et puis, on se dit, oulala, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai vraiment ressenti ça. Hein. Vraiment, je suis arrivée en août. Je me suis dit, c'est impressionnant. Ouais, alors les tiroirs,
les médicaments,
parce que d'une officine à l'autre, l'organisation n'est pas la même. Je vois avec mes camarades de classe, en fait, tout n'est pas rangé de la même façon, donc on n'est pas tous logés à la même enseigne. Enfin, c'est jamais pareil. C'est le titulaire en fait qui décide sa façon de faire, son organisation. Donc c'est vrai que le rangement, c'est ce qu'on fait. Enfin, là, moi, je sers pas encore parce que c'est encore un peu tôt. Et qu'il y a plein de spécialités que je connais pas, surtout. Donc voilà, ça m'arrive de préparer des ordonnances derrière quand il y a des gens à les livrer, par exemple. Voilà, je les prépare. J'ai mes collègues qui me disent oui, c'est bon, tu t'es pas trompée. Et puis après, on fait la tarification ensemble. Et puis après, on va relivrer le patient. Mais en fait, au départ, on fait beaucoup de rangement. Mmh. La base de l'apprentissage, c'est ça. En fait, c'est le rangement, déballer les commandes et faire du rangement. C'est ce qu'on fait la plupart du temps, en fait, en tant qu'apprenti. L'officine, les périmées et l'inventaire.
Ah, l'inventaire.
Ouais, ça, c'est les missions qui nous sont données, en fait, au départ. Ouais, alors c'est un peu rébarbatif, c'est vrai. Faut être honnête, hein, c'est pas ce qui est le plus glamour ou ce qu'on a le plus envie de faire. Mais,
je crois que ça n'amuse personne. Mais à la fois, ça permet de savoir exactement ce qu'il y a dans la pharmacie. Enfin, ça permet de faire un bon tour d'horizon aussi de ce qu'il y a en
pharmacie. Ouais, ça permet, en fait, d'apprendre... des spécialités qu'on ne connaîtrait pas, de regarder un peu ce qu'il y a, de savoir où c'est rangé. Et puis surtout, c'est important pour bien gérer les stocks et pour ne pas se tromper, en fait. Après, ça reste aussi un commerce, donc il faut que les stocks soient à jour, il faut que l'inventaire soit fait, il faut que les périmées soient faits. Ça, c'est super important, les périmées, d'enlever... que ça arrive que parfois, il y ait des boîtes, en fait, qui soient périmées, ils font des médicaments, des crèmes, des machins. Ça arrive sur des spécialités qui ne sont pas beaucoup prescrites.
Mmh. Oui, il n'y a pas beaucoup de turnover dans les médicaments.
Ça,
quoi.
Okay. Ça peut arriver. Ça reste rare quand même, je rassure quand même les gens qui écoutent, qui ne regardent pas à tous leur date de péremption de leurs médicaments parce que c'est vérifié, on fait attention. Mais du coup, c'est pour ça qu'on fait ce travail là aussi.
Bien sûr. Voilà. Alors du coup, tu es sur un fonctionnement de partiel, tu disais entre guillemets, parce que ça ne se passe pas exactement comme ça, mais ça va être une validation, en tout cas d'examen régulière, c'est une sorte de contrôle continu tout au long de l'année.
Oui, en fait, on a 2 ans, donc en fait, on a 4, on appelle ça contrôle des acquis dans mon école, mais peut-être que dans d'autres écoles, ça ne s'appelle pas comme ça, mais nous, c'est contrôle des acquis, donc d'accord. En fait, c'est une semaine où on a dans chaque module, en fait, on a des évaluations, tout simplement, c'est des évaluations sur ce qu'on a fait, en fait, avant. Et non, c'est chouette parce que du coup, là, les premiers qu'on a fait, ça permet aussi de se dire, bah voilà, j'en suis là, je pars avec tel niveau.
Ouais.
Du coup, il faut que je fasse mieux. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'en ai retiré? C'est super important. Donc, on en a quatre. Et puis bah, après, il y a le vrai examen qui arrive alors vers mai-juin de la deuxième année de formation. Donc, ça va très, très vite. Vraiment. Enfin, en fait, je me dis, c'est demain, quoi.
Oh là là, ouais.
Ça non, va, mais je viens de commencer, mais vraiment dans...
Juin 2024,
ça bah, en fait, dans un an, je suis déjà à la fin de la formation.
Ouais.
Bah, oh, dans un an, à la même époque, je vais arriver en deuxième année. Donc, je vais me dire, bah voilà, il me reste quelques mois pour me préparer à faire l'examen. Donc, ça va très vite.
Et ensuite, est-ce qu'il y a une... Alors, dans les textes, je ne sais pas, ou est-ce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui se voit, en gros, l'établissement dans lequel, l'officine dans laquelle tu as fait ton alternance? Il y a quand même possibilité d'être embauchée derrière. C'est quelque chose qui se produit souvent ?
Oui, oui, ça arrive.
Okay.
Bah moi, pour ma part, la titulaire, elle m'a dit que potentiellement, je pourrais remplacer en fait, une préparatrice qui part à la retraite.
Ah, ok. Super.
Ouais, ouais. Donc, c'est aussi un peu... Enfin, ça fait un peu bizarre en fait, d'arriver dans une officine et de se dire, bon, en fait, je suis l'avenir. Et puis, cette collègue-là que j'apprécie, qui est là, qui m'apprend en fait, son métier,
elle
va partir. Non, mais c'est vrai. Ça fait un peu bizarre quand même, mais ouais, souvent quand les pharmaciens en fait embauchent des apprentis, ils les forment à leur façon de travailler parce que chacun a sa façon de travailler, on ne travaille pas tous de la même manière. Bon après, le métier reste le même, hein, mais en fait dans l'organisation...
Ah mais parfois, oui, j'imagine voilà, que c'est le jour et la nuit entre les établissements, ouais ouais.
Ouais c'est ça, c'est comme toi dans ton métier avec les différents services, bah, c'est pareil, chaque infirmière travaille différemment selon le service, il n'y a pas les mêmes... C'est pas les mêmes attendus, c'est pas la même organisation. Bah, nous, c'est pareil. On n'a pas du tout... je le vois avec mes camarades de classe, on travaille pas du tout de la même façon parfois. Donc oui, puis à la fin, souvent, ils veulent nous garder parce que bah, du coup, on est formés en fait, à leur façon de faire à eux. Donc ils veulent pas nous laisser partir
Ils ont tout intérêt à garder. Ça.
Ouais, ça reste un investissement sur une personne, en fait.
Mais bien sûr, bien sûr. Ça me fait penser à... Je pensais à Anne de l'épisode 35, qui est assistante dentaire, et c'était un peu la même histoire.
Oui.
Elle disait, voilà, c'est un dentiste qui nous forme derrière l'idée c'est que tu sois bien formaté. Alors, le mot est un peu fort, mais...
Oui,
trouver quelqu'un qui corresponde à ton éthique de travail et que ça colle bien et que le duo fonctionne bien.
Ouais, c'est ça, c'est super important. Enfin, surtout, comme je disais, les préparateurs, c'est le bras droit, en fait, du pharmacien. En réalité... on se dit souvent, mais dans une officine, s'il n'y avait pas de préparateur, ce serait un peu difficile, quoi.
Mais il n'y aurait pas grand-chose de fait, je pense.
Bah voilà, alors, non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce que,
pour
l'organisation d'une officine, en fait, on a, du coup, le pharmacien titulaire. Alors, parfois, ils peuvent être plusieurs, si c'est vraiment une grande pharmacie. Il y a les pharmaciens adjoints, puis après, il y a les préparateurs. Et puis ensuite, il y a d'autres intervenants. Il peut y avoir les rayonistes dans les grandes pharmacies.
Ah, d'accord.
En fait, c'est les employés de pharmacie. Donc, le rayonniste, en fait, c'est celui qui va, du coup, déballer les commandes et ranger et faire les rayons de l'apparat, par exemple. Voilà, il y a aussi les esthéticiennes, en fait, qui peuvent faire des conseils, en fait, de cosmétologie dans l'apparat. Voilà. Et puis, il y a aussi les animatrices qui viennent. Les animatrices, en fait, c'est les... Comment dire? Les envoyés des laboratoires, en fait, qui viennent aussi donner leurs conseils, qui sont là parfois.
Et alors, quelle est la personne qui nous sert quand on... Enfin, moi, c'est le cas dans ma pharmacie. Il y a quelqu'un qui lève le bras et qui dit « Si c'est sans ordonnance, je peux m'occuper de vous. »
Ah bah ça, alors c'est soit une esthéticienne, justement, qui encaisse, en fait, les gens qui viennent chercher juste des produits.
Et qui n'a pas le droit, du coup, de gérer des ordonnances médicales.
Voilà. En fait, c'est ni un préparateur, en fait, ni un pharmacien. C'est quelqu'un qui ne peut pas délivrer de médicaments.
Très bien.
Donc, ça peut être un employé de pharmacie, un rayonniste, par exemple. Moi, je vois que c'est deux cas de figure possibles.
Ouais, ça doit être ça.
Ou aussi, ça peut être un apprenti qui n'a pas encore le droit de délivrer de médicaments. C'est possible aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Je n'avais pas pensé à cette...
Ça peut être ça aussi.
Exact.
Voilà.
C'est vrai. Bon, bah merci, Léa.
Bah, de rien.
C'est chouette de connaître... de vraiment connaître ce métier, parce que tu vois, moi, je m'inclus même dans les gens qui ne le connaissent pas assez bien, donc c'est top, savoir la formation, etc., tout ce que tu traverses, et du coup, montrer que ce métier est complexe, que les études sont denses, que la revalorisation ne fera pas de mal,
mais
c'est que le début, quoi.
Ouais, moi, j'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner, et puis savoir plus tard si j'ai envie d'évoluer aussi, de faire d'autres choses, ça peut être chouette. Si je veux me former plus dans un penchant ou un autre du métier, ça peut être sympa.
C'est ça. On va finir avec le petit portrait chinois. J'ai encore quelques questions pour toi.
Oui.
Première question, que dirais-tu à la Eléa d'il y a 10 ans? Alors, il y a 10 ans, t'avais 13 ans?
Ouais, j'avais 13 ans, ouais, ouais. Bah, j'étais au collège, du coup, en 5e, je crois, à peu près, ça doit être ça. Bah, je dirais de ne pas lâcher, voilà. Et puis, je ne sais pas trop, je pense que je me dirais de faire un peu confiance à la vie et puis, de suivre un peu comme ça le chemin sans stresser, parce que je suis une grande stressée, mais enfin voilà, d'avoir confiance.
Très bien.
Je dirais ça.
Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession, en tout cas pendant ton alternance, et que tu n'avais pas appris peut-être pendant les études théoriques?
Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Bah, là, en fait, pour la pharmacie, purement simplement, c'est vraiment tout le côté logistique. En fait, à l'école, on n'apprend pas comment on réceptionne une commande ou comment on range des médicaments. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on apprend à la pharmacie. Enfin, là, pour l'instant, c'est ça. On apprend ça. Et puis aussi, comment recevoir un patient. On n'apprend pas non plus ça à l'école. En tout cas, pas pour l'instant, parce que je sais qu'il y a des nouveaux cours là, qui vont être mis en place pour nous, pour apprendre ça. Mais ouais, vraiment tout le côté pratique du métier.
C'est ça. Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
Ah, c'est pas une chanson, c'est un groupe.
Ok.
Ouais, c'est Epica, c'est un groupe de métal symphonique. Alors oui, c'est très...
D'accord.
Ouais, c'est faut aller chercher celui-là, enfin faut connaître. C'est un groupe qui est très très chouette en fait. Ils font, mais il y a une partie métal, une partie symphonique et la chanteuse a une voix absolument divine, sublime. C'est vraiment génial et ça donne vraiment la pêche pour le coup.
Ah bah je vais aller écouter ça juste après.
Ouais, tu me diras si t'as apprécié.
Ouais ouais ouais, je vais aller écouter ça. Et tu as comment le nom? Epica.
Epica.
Epica. Epica. Ouais. Je vais aller écouter ça. Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
C'est tout simple, en fait, c'est merci. Voilà, c'est en fait quand je vais livrer, alors j'ai des patients récurrents que je vais livrer toutes les semaines là, quand je suis à la pharmacie, que je vais voir, en fait, ils me disent « Ah bah merci d'être venu, merci de vous être déplacé, enfin voilà, je voulais pas vous embêter et tout. » Et ils sont vraiment super. Et puis merci aussi d'avoir pris le temps de discuter avec moi, ne serait-ce que 5 minutes, parce que parfois on va voir des personnes âgées. Et en fait, ils ne voient que nous dans la journée, c'est vrai,
ouais.
Il faut le dire, c'est important, ils se sentent seuls. Donc, alors moi, quand je peux, quand j'ai le temps, j'aime bien rester, discuter un peu avec eux, et puis ça crée un lien qui est super chouette. Donc, voilà.
C'est vrai, très important ce merci qui fait du bien.
C'est vrai.
La question suivante, alors je dis toujours ton meilleur fou rire au travail, mais sinon en cours, c'est valable aussi.
Oh bah il y en a eu, ouais il y en a eu pas mal, bah là en cours récemment, c'est à cause de notre professeur en fait de pathopharmaco qui a rigolé en rendant les copies du fameux contrôle des acquis, parce qu'il y a quelqu'un de ma classe qui a mis une réponse drôle sur la scintigraphie en fait, rapidement, ce camarade a dit qu'on utilise des isotopes qui explosaient, et du coup le prof il a rigolé, du coup le fait qu'il rigole, bah nous en fait on a rigolé, et pendant 5 minutes, on était intenable, mais juste parce qu'il était mort de rire. En fait, il n'arrivait même pas à nous dire la phrase tellement pour lui.
C'est vraiment la vanne de l'année pour lui. Quoi.
Ouais, voilà, tellement. Et enfin, du coup, c'était un grand fou rire et c'était très chouette.
Très bien. Et la dernière question, un titre de film qui résume alors ta carrière ou ton début de carrière en tout cas.
Ouais, c'est difficile, mais alors juste ce matin, j'ai pensé à La Revanche d'une blonde. Je ne sais pas si tu connais le.
Très bien, absolument.
Voilà, un film vraiment d'adolescence hein, pour moi.
Oh, mais c'est juste.
Ouais, alors j'adore ce film, vraiment, c'est un film un peu de la honte, et c'est très dommage parce que...
Il est culte dans son genre.
Ah, ouais, il est vraiment très très chouette, et je le conseille si vous ne l'avez pas encore vu, pour les gens qui écoutent. Mais non, c'est juste en fait parce que cette fille-là, dans ce film-là, on la déprécie beaucoup par rapport à ce qu'elle est. Et en fait, c'est un peu le cas quand on fait elle et puis qu'on va en fait dans une filière un peu plus scientifique et qu'en fait, on y arrive quand même. Donc, juste pour ça, je dirais celui-là.
Très bien. Eh bien, un grand merci, Eléa.
Merci à toi.
Je suis ravie de t'avoir reçue à mon micro.
Oui,
et puis, on va discuter en off du coup de ce qu'on peut mettre comme ressource sous l'épisode s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus sur la fameuse réforme. Le dust, voilà.
Tout ça, les nouveautés qui arrivent.
Et voilà, faire à suivre.
Ouais, ou même si j'ai oublié de dire des choses, hein, parce que...
C'est oui, mais non, je pense que c'était bien complet. Mais on en rediscute en tout cas, et
ouais,
on glissera quelques petites infos en dessous. Merci Eléa, et bonne
merci
continuation.
À toi. Merci, à toi aussi.
À bientôt.
À bientôt.
J'ai expérimenté pendant cet enregistrement l'un des pires bugs de ma courte vie de podcasteuse. Mon ordinateur s'est tout bonnement éteint et a redémarré en erreur fatale, ce qui explique donc ma piste audio d'un peu moins bonne qualité que d'habitude. Mais l'essentiel est que la parole d'Eléa ait résonné correctement dans vos écouteurs, autoradio et autres enceintes Bluetooth. Eléa accepte très gentiment de recevoir vos questions via son compte Instagram. Vous pouvez donc la contacter si un questionnement subsistait à la fin de cet épisode. Je vous note tout dans la description. À très vite pour un prochain épisode.